La marche du monde, Valérie Nivelon.
L'indépendance ne se donne pas, ça se prend, ça s'arrache, ça se paye en sang et en cadavre.
La liberté a un prix, rappelle Aimé Césaire lorsqu'il pose la question de l'indépendance pour sa terre natale, la Martinique. Un prix payé cher pour nombre de figures de la révolution africaine. Patrice Lumumba, assassiné. Mehdi Ben Barka, assassiné. Ou encore Malcolm X, assassiné, pour ne citer que des noms que notre invité Saïd Boumama remet à l'ordre du jour en bon sociologue et militant associatif qu'il est. De Jomo Kenyatta à Thomas Sankara, il faut entendre les voix des grands penseurs africains, d'abord parce qu'ils sont des hommes de combat. Car l'indépendance, c'est aussi une guerre dans laquelle certains se sont sacrifiés et d'autres fourvoyés. Bonjour, Saïd Boumama.
Bonjour.
Dans votre panthéon de la révolution africaine, on rencontre Jomo Kenyatta, Aimé Césaire, Ruben Umniobé, Frantz Fanon, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Malcolm X, Mehdi Ben Barka, Amilcar Cabral ou encore Thomas Sankara. En revanche, pas de Gamal Abdel Nasser ou de Nelson Mandela. Pour quelle raison ?
Tout simplement parce qu'il avait des choix à faire. Ça a été le plus grand drame de ce livre pour moi, qui était de faire ses choix. En réalité, au-delà des personnes, il faut regarder tout un contexte qui a donné naissance à des trajectoires et à des hommes qui incarnent des changements.
C'est donc un choix assumé. Ça ne m'étonne pas de vous, mais plutôt autour de ceux que vous appelez des penseurs combattants.
Oui, il y a une image qui circule aujourd'hui depuis un certain nombre de décennies sur le fait qu'effectivement les guerres d'indépendance étaient d'abord des actions armées ou des actions militantes uniquement. Et on oublie trop souvent que ça a été aussi et en même temps l'action d'une pensée d'émancipation. Et c'est l'articulation de la théorie et de la pratique, de l'action et de la pensée qui fait toute l'importance de cette période.
Alors avec votre livre, Saïd Boumama, on pourrait peut-être se dire que le tiers-mondisme finalement ne serait pas mort ?
Absolument, il est plus que jamais d'actualité. Il suffit de relire ces penseurs, et c'est pour cela que je voulais en donner quelques synthèses, relire ces penseurs pour s'apercevoir que les mots ont changé, les manières d'aborder les questions peuvent avoir changé, mais en réalité les questions de fond qui sont abordées restent similaires.
Les voix de la révolution africaine sont dans la marche du monde. Écoutez le Kenyan Jomo Kenyatta, président du Kenya indépendant en 1964.
Voilà.
Marchons tous ensemble, c'est le message de Kenyatta, ses frères et sœurs, pour résister à la colonisation britannique. Avec Kenyatta, vous avez voulu insister sur le fait que la lutte de libération passe d'abord par une prise de conscience de son statut, Saïd Boumama.
Absolument, avant que de pouvoir penser l'émancipation, avant que de pouvoir repartir à l'offensive, et il faut d'abord prendre conscience effectivement de la véritable place qu'on a dans le système qui nous domine. Et dans tous les pays africains, comme dans les Antilles, on est d'abord passé par la reconnaissance, la prise de conscience du statut réel que l'on avait, et en particulier de l'intériorisation de l'infériorité qui était produite par le système esclavagiste et colonial.
Et en l'occurrence, pour s'opposer à l'oppression coloniale, Kenyatta, vous l'expliquez, va défendre sa culture ancestrale, Kikuyu, dans toutes ses dimensions, y compris les plus archaïques. Hein. Vous n'excluez pas le fait qu'il revendique l'excision. C'est quand même super choquant.
Si on le resitue pas dans un contexte, qui est le contexte d'oppression, quand un opprimé veut se remettre debout, il a besoin, pour accumuler des forces, de replonger dans ce qui lui semble être encore son âme, son héritage, etc. Et ça n'est qu'à partir du moment où il y a de cette fierté d'être soi, que l'on peut repartir à la conquête. Lorsque je souligne que, y compris la revendication de l'excision par Kenyatta fait partie de ce processus, cela ne veut pas dire que j'approuve, ça veut dire tout simplement qu'il faut comprendre, y compris les choses qui nous semblent les plus anachroniques, au travers travers de la période historique où sont les personnes. Quand Aimé Césaire nous dit « le nègre t'emmerde et je suis fier d'être nègre », c'est ça qu'il dit, il y a besoin d'une revalorisation de soi pour pouvoir affronter la domination.
Et d'ailleurs, vous nous montrez que Kenyatta va évoluer au contact des panafricanistes comme justement Kwame Nkrumah et développer un discours nationaliste, donc au fond, au-delà de sa culture Kikuyu.
Absolument. Ce qui caractérise aussi la période que couvre le livre, c'est les influences mutuelles. Et ça marque bien des périodes historiques qui sont des périodes de transformation. C'est lorsque effectivement la pensée de l'un influence la pensée de l'autre, l'évolution d'une lutte de libération nationale, ses échecs, ses erreurs vont influencer ceux qui viennent après pour en tirer des leçons et ne pas les reproduire.
Nous avons évoqué le panafricanisme avec Nkrumah, donc voici donc la voix de son maître.
And the task which is before us of unifying our continent.
La tâche devant nous d'unifier notre continent.
Or be left behind.
Nous ne devons pas rester à la traîne.
The task cannot be attacked in the tempo
Il faut
of any other age
attaquer notre devoir
to fall behind
à notre rythme.
The unprecedented momentum of action and events
devant la vitesse des événements de notre époque.
To court failure. And our own undoing.
Il ne faudra compter que sur nos actes.
The whole continent has imposed a mandate upon us.
Tout le continent
to lay the foundation of
nous
our
a donné un mandat. Poser les fondations, les bases de l'unité africaine ici.
It is our responsibility.
Il est de notre ressort
execute this mandate by creating
d'aller
here and
au
now
bout de ce mandat
the formula upon which the
en créant
superstructure
la formule
may be erected.
Sur laquelle reposera le continent uni.
Nous devons réaliser l'unité africaine. C'est l'interpellation du premier président de la République du Ghana, Kwame Nkrumah, à Addis Abeba. C'était lors de la création de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, à Addis Abeba donc. Saïd Bouamama, Nkrumah, quand je dis la voix de son maître, c'est un peu le... D'abord le père du panafricanisme, un peu le père aussi de tous les penseurs combattants dont vous parlez dans votre livre.
Absolument, la caractéristique de Nkrumah, c'est que quand on le regarde avec le recul historique, c'est qu'il avait en gros un demi-siècle d'avance. Il théorise, il explique pourquoi l'unité du continent africain est une nécessité, non pas pour le passé, non pas parce qu'il y aurait une culture commune, parce que les cultures africaines sont diverses, mais par rapport à la question de l'indépendance. Pour être indépendant, il faut des sphères de développement, des rapports de force qui dépassent le cadre de chacune des nations. Et Nkrumah voit avec inquiétude, une inquiétude qui était, compte tenu de l'époque, eh bien malheureusement trop anticipée, mais il voit par rapport à la situation de l'époque qu'aucune indépendance ne sera réelle s'il n'y a pas unité de au moins de plusieurs pays, et encore mieux, les États-Unis socialistes d'Afrique, comme il le disait, puisque c'était son rêve. Quand on regarde la situation d'aujourd'hui, on s'aperçoit que malheureusement, à chaque fois qu'une perspective d'émancipation a eu lieu, eh bien, elle a été tuée dans l'œuf parce qu'effectivement, elle était dans un échelon trop petit. Et à contrario, quand on regarde la situation en Amérique latine, eh bien, on s'aperçoit qu'à partir du moment où une aire géographique qui dépasse une nation se met en situation de coordination, eh bien, il y a plus de chances de résister à l'état des rapports de force mondiaux aujourd'hui.
Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, au moins du point de vue économique. On voit bien cette fédération des régions qui peut-être un jour d'économie passera aux politiques. Alors, on parlait de circulation des idées, Saïd Bouamama, c'est ce que vous voulez montrer aussi dans votre livre. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant. Nous venons de parler de la circulation des idées de Kwame Nkrumah, de la même façon que Frantz Fanon a été influencé par Aimé Césaire, rencontré au premier congrès des écrivains noirs et artistes noirs à Paris en 1956.
Écoutez RFI, la marche du monde.
Qu'est-ce à dire ? Si ce n'est que partout où la colonisation s'est manifestée, des peuples entiers ont été vidés de leur culture, vidés de toute culture. C'est dans ce sens que l'on peut dire que la réunion historique de Bandung n'a pas été seulement un grand événement politique, il a été également un événement culturel de premier rang, car il a été le soulèvement pacifique de peuples affamé non seulement de justice et de dignité, mais aussi de civilisation et de culture. Notre rôle n'est pas de bâtir a priori le plan de la future culture noire, de prédire quels éléments y seront intégrés, quels éléments en seront écartés. Notre rôle, infiniment plus humble, est d'annoncer l'avenue et de préparer l'avenue de celui qui détient la réponse, le peuple, nos peuples, libérés de leurs entraves, nos peuples et leur génie créateur, enfin débarrassés de ce qui le contrarie ou le stérilise. Nous sommes aujourd'hui à un moment très grave de l'histoire. Nous sommes dans le chaos culturel. Notre rôle est de dire, libérer le démiurge qui seul peut organiser ce chaos en une synthèse nouvelle. Une synthèse qui méritera, elle, le nom de culture. Une synthèse qui sera réconciliation et dépassement de l'ancien et du nouveau. Nous sommes là pour dire et pour réclamer, donner la parole au peuple noir, laisser entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire.
La verve et le verbe de Césaire, applaudi par Frantz Fanon, qui à son tour s'exprime.
Le racisme boursoufle et défigure le visage de la culture qui le pratique. La littérature, les arts plastiques, les chansons pour midinette, les proverbes, les habitudes, les patterns, soit qu'il se propose d'en faire le procès ou de le banaliser, restitue le racisme. C'est dire qu'un groupe social, un pays, une civilisation ne peuvent être racistes inconsciemment. Nous le disons encore une fois, le racisme n'est pas une découverte accidentelle, ce n'est pas un élément caché, dissimulé, il n'est pas exigé d'efforts surhumains pour le mettre en évidence. Le racisme crève les yeux, car précisément il entre dans un ensemble caractérisé, celui de l'exploitation éhontée d'un groupe d'hommes par un autre, parvenu à un stade de développement technique supérieur. C'est pourquoi l'oppression militaire et économique précède la plupart du temps, rend possible, légitime le racisme.
Frantz Fanon, un des penseurs combattants que vous affectionnez, Saïd Mouamama, et un penseur encore très méconnu en France. Il était longtemps censuré.
L'intérêt de Frantz Fanon et le grand apport de Frantz Fanon, c'est de relier les différents continents, parce que on ne peut pas comprendre, bien entendu, ni l'esclavage ni la colonisation sans s'interroger sur les conditions de possibilité ici en Europe, les processus qui ont précédé, qui ont rendu possible dans l'imaginaire, d'imaginer justement la possibilité de mettre d'esclavagiser des peuples entiers, et sur les effets également, sur ce qu'il reste. Frantz Fanon, comme Aimé Césaire, sont les deux penseurs qui ont pensé l'interaction entre le développement ici et le sous-développement là-bas, entre l'émergence et la diffusion du racisme dans les inconscients collectifs ici et la colonisation. Bref, c'est cette pensée de l'interaction qui fait d'eux des penseurs qui sont quasi intemporels. Tant que la domination existera, c'est cette manière de relier les deux continents est une dimension qui est incontournable et nécessaire.
Et Fanon en sait quelque chose, hein, puisqu'il est né aux Antilles, comme Césaire. Hein. Ils sont donc français, issus des vieilles colonies. Et Fanon, lui, a rejoint le combat du FLN en Algérie en 53. Il est psychiatre, Fanon. Et alors, du coup, il étudie les effets du colonialisme sur la psychologie de ceux qui sont dominés. Mais ce qui est peut-être plus original, c'est qu'il étudie aussi les effets du colonialisme sur ceux qui dominent. Il se dit, finalement, ça fait partie du même problème.
Absolument. Et ça souligne la dimension humaniste, contrairement à un certain nombre de caricatures qui ont pu être faites de ses pensées, de la plupart de ses penseurs, qui étaient non seulement d'émanciper les peuples d'Afrique colonisée, mais c'était aussi de le penser comme étant un des morceaux de l'émancipation globale de l'humanité, et que effectivement le racisme comme condition de l'esclavagisme et du colonialisme, Césaire le disait, boursoufle le pays du colonisateur. Il va même plus loin dans un autre texte où il parle de décivilisation. Avoir comme projet d'aller civiliser les autres suppose qu'on soit soi-même décivilisé. Et donc on a bien là affaire à une pensée de l'interaction une nouvelle fois.
Alors Fanon, lui, il meurt très jeune, en 1961, et il meurt d'une leucémie. Il a 36 ans, et c'est la même année, en 61, où Patrice Lumumba est assassiné. Ce qui a fait de Lumumba d'ailleurs une icône absolue de la révolution africaine, cette voix maman.
Oui, alors Lumumba a deux caractéristiques. La première, c'est qu'il montre bien, et pour moi c'est plein d'espoir pour l'avenir, il montre bien la rapidité dans certaines circonstances historiques des évolutions de la pensée. 3 ans avant son assassinat, Lumumba écrit un livre dans lequel il fait les louanges du colonisateur belge en réclamant juste que les indigènes évolués dont il était soient reconnus. 3 ans avant et 3 ans après, Lumumba est un penseur des indépendances.
Et je vous propose tout de suite d'ailleurs un extrait du discours de Patrice Lumumba au moment de l'indépendance du Congo.
Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain.
Les mots du Congolais Patrice Lumumba, prononcés le 30 juin 1960, devant le roi des Belges, Axel Marie-Gustave Baudouin, qui évidemment n'a pas apprécié, puisque Lumumba fait un discours à charge contre le colonisateur.
Absolument. Ce qu'il faut souligner, c'est que c'est le jour de l'indépendance, et que le roi des Belges s'autorise ce jour-là à faire un discours qui est un discours d'humiliation, puisque dans son discours, il souligne que la Belgique n'est pas venue pour mettre en esclavage ni pour opprimer, mais qu'elle est venue en civilisateur. Quand on sait ce qu'était la colonisation belge, qui est une des colonisations, si tant est qu'il y ait une colonisation qui puisse être douce, mais en tout cas une des plus dures, on l'appelait l'empire du silence, tant était organisé un silence autour de ce qui s'y passait. C'était une propriété privée du roi. Bref, on a vraiment une colonisation qui est parmi les pires des caricatures, et le roi des Belges, le jour de l'indépendance, vient annoncer que c'est un acte de civilisation et que l'indépendance est le couronnement de la civilisation. C'était inentendable pour un Lumumba, qui effectivement réagit, et sans doute que ce qu'il a dit dans son discours soulignait son arrêt de mort, puisque derrière cela, il soulignait que l'indépendance ne s'arrêtait pas à simplement un drapeau et un hymne national.
Et un discours de Lumumba à ce moment-là, totalement improvisé et en Absolument. Réaction à l'attitude justement du roi Baudouin. Alors je repense aux mots de Césaire, avec lesquels nous avons ouvert cette émission. Je pense aussi aux mots de Fanon, et à cette notion de légitime violence, Saïd Bouamama.
Fanon a trop souvent été présenté comme un partisan de la violence, quelqu'un de favorable à la violence à tout prix, alors qu'il ne faisait que l'autopsier, il ne faisait que repérer que la violence du colonisé est toujours la réaction à la violence du colonisateur. Et cela dépasse de beaucoup la colonisation, ça concerne toutes les dominations. À partir du moment où quelqu'un qui est en situation d'infériorité se révolte, il suffit de regarder quelques semaines auparavant, quelques mois auparavant, quelques années auparavant, pour s'apercevoir qu'il était lui-même victime d'une violence beaucoup plus forte, et que c'est après avoir épuisé toutes les formes non violentes que les colonisés ont été amenés à utiliser la violence comme arme. C'est pour cela qu'on peut parler de légitime violence.
Afrique, Afrique, oui Afrique, où résonne le tam-tam de la liberté. Liberté, liberté, oui liberté, liberté au pays d'Afrique. Liberté, liberté, oui, liberté, liberté au pays d'Afrique. Émérie, émérie, oui, émérie, Lumumba, héros national. Émérie, émérie, oui, émérie.
La mémoire de Lumumba, chantée par l'école bleue congolais. Lumumba, figure de la révolution africaine, en pensée et en action. C'est ce que montre Saïd Bouamama dans son livre et dans La Marche du Monde, juste après les infos sur RFI.
L'émission que vous allez entendre est une rediffusion. marche du monde.
Qu'est-ce que signifie pour vous personnellement d'être un chef d'État?
Beaucoup de responsabilités. Parce que il faut être responsable de tout. Il faut gérer la joie de tous vos compatriotes, entretenir cette joie-là permanente. Faire en sorte que chaque jour, chaque minute, chaque seconde, il n'y ait pas un seul qui soit triste. Ça, c'est très difficile.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Il faut gérer la joie, sacrée définition de la responsabilité du chef d'État, signé Thomas Sankara. Thomas Sankara est l'une des figures les plus créatives de la révolution africaine, décrite dans votre livre, publié aux éditions La Découverte, Saïd Bouamama, et vous lui consacrez évidemment un chapitre. Alors quelle place a Thomas Sankara dans cette longue lignée de révolutionnaires africains?
Sankara est l'héritier et des réussites et des échecs des penseurs précédents et des expériences précédentes. On voit qu'il a étudié avec attention, en tout cas tiré les leçons d'un certain nombre d'erreurs du passé. Et en particulier, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase, ce morceau où il parle de joie. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de transformation sociale globale dans un continent traumatisé comme l'Afrique s'il n'y a pas de l'espoir social. Et effectivement, une des erreurs des expériences antérieures, ça a parfois été de vouloir construire l'émancipation par en haut, par l'État, de manière descendante. Sankara a fait exactement l'inverse et on voit bien qu'il a tiré les leçons des échecs antérieurs. C'est par la mobilisation populaire, par l'organisation en bas, par les résultats, les petits résultats, mais perceptibles immédiatement par le plus humble des habitants qu'il construit ses politiques. Ça n'est pas simplement par joie qu'il fait des grands chantiers dans lesquels les gens chantent et transforment, c'est tout simplement parce qu'il y a une perception que l'avenir est d'abord une construction de chacun.
Alors rappelons, si vous voulez bien, Saïd Bouamama, les circonstances dans lesquelles Sankara arrive au pouvoir. Sankara, c'est un peu l'enfant du militaire et de l'Église en quelque sorte, et c'est quelqu'un qui est déjà dans l'État en quelque sorte lorsqu'il fait son coup d'État en 83.
Absolument, Sankara aurait très bien pu choisir une trajectoire qui était une trajectoire comme en fait beaucoup de militaires, de venir au pouvoir après un coup d'État et de construire un pouvoir personnel ou un pouvoir pour une petite clique. Simplement, il avait une trajectoire dans laquelle très vite il a été mis en contact avec ce qu'était la misère populaire, ce qu'était la souffrance populaire. Et donc, il dit lui-même que son premier coup d'État, il n'était pas prêt. Et en réalité, c'était un coup d'État que lui ne voulait pas faire. Et il s'est retrouvé dans une situation dans laquelle le pouvoir était en crise. Et en même temps, il y avait une mobilisation populaire par en bas. Et il a donc considéré qu'il fallait utiliser cette opportunité. Mais très tôt, il souligne, il insiste sur le danger de considérer que c'est l'aspect militaire qui va primer. En gros, il considère que le politique prime sur le militaire, contrairement à beaucoup d'autres hommes d'État.
Alors, afin de revivre les années Sankara au Burkina Faso, je vous propose de découvrir ce reportage réalisé à Bobo Dioulasso avec Urbain Kahn et Bakary Barrow. Ils étaient adolescents sous Sankara et ils ont donc participé à leur mesure à la révolution. Bakary Barrow se souvient d'ailleurs d'avoir vu Sankara en personne à Bobo Dioulasso avec le Ghanéen Jerry Rawlings, le grand frère militaire et révolutionnaire de Sankara.
Mon souvenir le plus fort de Sankara, c'est lors de l'arrivée de son ami et frère, Jerry John Rawlings, dans la ville de Bobo. Jerry John Rawlings que j'avais vu pour la toute première fois à cette occasion. Et les discours que les deux présidents de l'époque ont tenus à l'époque au stade municipal, ici à Bobo, ces discours-là m'ont captivé. Et j'avoue sincèrement que c'est le moment le plus fort pour moi.
La vision de Sankara, le camarade président juste devant vous, vous l'avez trouvé comment?
Je l'ai trouvé tout simplement fantastique. Et à travers lui sur place, malgré ma jeunesse, j'ai lu quelqu'un qui avait une force de caractère comme ça. Et c'était ma première fois de voir quelqu'un comme ça. Et où il y a une certaine force qui se dégageait de lui.
Et vous, justement, la jeunesse, pour montrer votre adhésion à la révolution, vous deviez porter des signes extérieurs qui montraient votre adhésion au projet socialiste.
Oui, à l'époque, je me rappelle qu'il y avait ces foulards rouges que la jeunesse avait donc autour du cou. Et lors de, des rencontres ou des marches aussi, il y avait ces chansons. Sankara n'est pas pied plat, jamais, jamais, c'est pourquoi nous le suivons, révolution. Sankara n'est pas voleur, jamais, jamais, c'est pourquoi nous le suivons, révolution. Et ça, c'est resté aussi dans ma tête.
Et lors de ce fameux jour où Sankara vient ici, à Bobo, vous êtes là au stade, vous l'écoutez, vous êtes émerveillé par son discours, qu'est-ce qu'il vous dit à vous, la jeunesse ?
Sankara, dans son discours, a incité la jeunesse à prendre les idéaux de la révolution, hein, à s'approprier les idéaux de la révolution. Et il a toujours dit que la jeunesse, c'est le fer de lance de la révolution. Et ça, dans ses discours, ça aussi c'est resté. La jeunesse est le fer de lance de la révolution.
À l'époque, Bakary Barrow a 18 ans et son ami Urbain Kahn, tout juste 15. Je les retrouve dans le secteur 11 du quartier Colma, à Bobo-Dioulasso.
On était des vrais ados. C'est vrai qu'on se retrouvait pour se donner les nouvelles du jour ou le soir. Ce qui s'est passé avec les CDR, ceux qui géraient tout le quartier. Et du coup, ils avaient tout le pouvoir.
Qu'étaient-ils ces gens-là qui étaient responsables du CDR, du Comité de la Révolution ?
Bon, en réalité, ce sont des gens qui étaient issus de la population résidente du quartier Colma. Bon, il y avait beaucoup plus de jeunes, donc plein d'engouement. Et ils ont été mis en place à partir des élections.
Il fallait être un bon révolutionnaire,
connu
de la révolution sankarienne pour...
Surtout intègre. Il fallait être reconnu intègre par la population.
Et oui, parce que lorsque Sankara arrive au pouvoir, peut-être la première chose qu'il faut rappeler, c'est le changement de nom.
Il faut le dire que d'abord, en informel, on commençait à apprendre que bon, le pays allait changer de nom. Bon, mais c'était quel nom ? Entre-temps, on avait entendu Burkina. D'autres ont dit... moi, par moment aussi, j'entendais que les gens disaient Faso. Et finalement, il est ressorti que les deux propositions étaient associées, c'est devenu Burkina Faso. Bon, quand on a appris ça vraiment, pour nous les jeunes à l'époque, c'était encore un plus dans notre identité. On s'identifiait désormais à nous-mêmes, au lieu qu'on s'identifie aux colonisateurs.
Oui,
pour compléter Bakary, en fait, c'était le nom, la Haute Volta, c'était, le nom était arrivé par les colons. Donc lui, la première des choses, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Ben, consommant burkinabé, il faut changer le nom du pays, c'est comme ça. Bon, aussi, ils ont trouvé le nom Burkina Faso.
À 15 ans, dans Burkina Faso, le pays des hommes intègres, quand on a 15 ans, comme vous, Urbain Kahn, ici à Bobo-Dioulasso, et qu'on vit le début de cette révolution avec Sankara, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on pense, déjà avec le changement de nom, l'installation du CDR dans le quartier ?
On savait que c'est quelqu'un qui allait différent des autres présidents qui étaient là bien avant. Sur le coup, pour nous, je vais dire, c'était un peu choquant et violent, on va dire. Parce qu'il y avait pas mal de changements, déjà, où les jeunes, ils avaient totalement le pouvoir. On commençait à perdre le côté respect de notre tradition. Les vieux étaient mis à côté, il n'y avait plus de respect. Donc, il fallait même appeler ton papa comme camarade. C'était pas évident, tu vois, tout ça déjà. Nous, en tant que des jeunes, des ados... On a reçu une éducation, une bonne éducation. Et du coup, tout change.
Bâtissons la volta, ne la trahissons pas. Travaillons dans nos plaines, nos usines et les vents.
Haute volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabés. C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre... Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue.
Qui veut dire
Patrie des hommes honnêtes.
Décoloniser le Burkina Faso, atteindre l'autosuffisance alimentaire, produire et consommer localement, s'habiller avec des vêtements tissés en coton burkinabé sont autant d'objectifs définis par Sankara.
À l'époque, on disait il fallait s'habiller en Faso d'Anfani, Faso d'Anfani, donc tout le monde était s'habillé dans ça. Et même Sankara, il faisait des surprises de visite dans des services. Quand il arrivait dans un service, et qu'il voyait un directeur qui n'est pas habillé face aux Danfani. Ce directeur avait des explications à donner. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tous les directeurs de service, ils avaient tous dans leur tiroir le face d'Anfani qu'on appelait Sankara arrive. Quand il arrive, rapidement, il s'habille dans le tenue Sankara arrive, qui est le face d'Anfani.
Ne vous fiez pas aux apparences. Cette démonstration bottée dans les rues de Ouagadougou n'est pas organisée en l'honneur d'un quelconque dictateur. C'est la production que l'on célèbre ici, plus exactement le choix fait par le Burkina Faso pour vaincre la faim, l'autosuffisance alimentaire.
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
Dans certains pays, seulement 4% de la population réussit à nourrir toute une population de plus de 200 millions d'habitants et même à exporter et à constituer autour de l'agriculture une puissance économique. Il n'est pas normal qu'ici, à plus de 90% d'agriculteurs, de cultivateurs, de paysans, nous ne soyons pas encore en mesure de nous autosuffire.
Bakary Barrou, vous, vous aviez 18 ans, vous étiez au lycée. Dans quel lycée étiez-vous?
Bon, moi, j'ai fréquenté le lycée voisin Koulibaly, qui était donc un des... En fait, c'est le plus grand lycée de la ville de Boubou. Hein. Et à ce niveau, effectivement, avec la révolution, on a assisté à toutes sortes de débats. Hein, au lycée.
C'était pas n'importe quel lycée, ce lycée.
Oh, oui. C'est vrai qu'on nous disait déjà que le président, même Thomas Sankara, était passé par ce lycée. Et quand on se rendait compte que le lycée avait été fréquenté par le président, on était très fiers de cette situation. Voilà. Donc, au niveau du lycée, il faut savoir aussi qu'on avait des enseignants qui avaient pris le train de la Révolution. C'était un professeur d'anglais que j'ai beaucoup admiré hein, quand on était au lycée. Pendant les cours, pour nous initier à l'anglais oral, criait impérialisme. Et quand les élèves, on ne se retrouvait pas, on ne savait pas comment il fallait dire « abba » en anglais, on a dit « abba », il dit « no, say down, impérialisme, down ».
Ça voulait dire « abba l'impérialisme ».
L'impérialisme, et les élèves répondaient « abba ».
Le président du CNR et du FASO aborde maintenant le problème de la dette des pays africains.
Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Quand ils gagnaient, il y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, monsieur le président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue.
Urbain Cam, donc vous faisiez partie de la promotion Che Guevara.
Che Guevara, sixième promotion.
Est-ce que Che Guevara, vous le connaissiez? Est-ce qu'on vous a expliqué qui était Che Guevara?
Bon, vaguement. Mais moi, quand on a dit promotion Che Guevara, moi je voyais direct Sankara. Bon, je mettais Sankara à plat de Che Guevara. Je me dis Che Guevara, c'est quelqu'un où Sankara a les mêmes intérêts, les mêmes visions que lui. Donc je me disais, bon voilà, je vois Sankara, mais je vois pas Che Guevara. Donc je n'ai pas cherché trop à savoir qui était ce dernier. Nous, on a bénéficié vraiment avec cette formation. Ça a été un atout. Ça a été un truc positif. Moi, je prends particulièrement parce que je sais que dans la vie sociale, quand tu rentres dans le milieu militaire, avec une formation et une éducation, et après tu reviens, tu essaies d'adapter, tu prends les trucs positifs, tu adaptes vraiment dans la vie sociale, ça reste positif.
Ici, à Bobo-Dioulasso, Bakary et Urbain faisaient partie de cette jeunesse qui portait les espoirs de la révolution sur l'ancien terrain de sport du secteur 11 au quartier Coleman de Bobo. Ils se souviennent des enjeux que représentaient les matchs.
L'engagement était très fort. Hein. Et moi, je prends par exemple le cas de notre secteur que nous avons trouvé, que moi j'ai trouvé en tout cas comme étant l'un des secteurs qui était, dont la jeunesse était très soudée. Hein.
Le secteur 11, donc.
Le secteur 11. Dès qu'il y avait un match, c'est vrai que les premiers responsables de notre équipe aussi faisaient partie des comités de défense de la révolution du secteur. Donc ça fait que c'était mieux organisé.
Comment cette présence politique, comment les discours révolutionnaires prenaient leur place dans les compétitions sportives ? Urbain Kam.
Oui. Oui, c'est vrai qu'il y avait les discours étaient présents. C'est-à-dire que les gens sortaient massivement. Parce que c'était l'occasion aussi de pouvoir passer des messages. C'était un espace quand même où tout se passait.
Un forum.
Un forum, voilà, où tout se passait. C'est vrai qu'il y a, avant les matchs, il y avait des discours. À travers les discours, on passe des messages.
Quels étaient les messages? Vous vous souvenez un petit peu de l'esprit de ces discours? Qu'est-ce qu'on vous disait à vous, les jeunes?
Les discours, c'est surtout être présent, arriver à être soudé. Et chaque quartier doit défendre son quartier, défendre les objectifs du président. Et c'était des espaces aussi où on dénonçait des gens.
Au micro, c'est-à-dire qu'il y avait des jeunes burkinabés du quartier qui venaient au micro, au stade, pour porter accusation sur tel ou tel.
Exactement. Quand tu n'es pas présent, on te considère comme quelqu'un qui sabote. Et puis, les premiers responsables, ils prennent note. Et puis, après, les sanctions tombent. On rappelait toujours les slogans.
C'était quoi les slogans? Vous souvenez tous les deux, les slogans à l'époque dans le stade, là?
La patrie ou la mort, nous vaincrons, il y avait je sais pas quoi.
Avant qu'on se déporte sur le terrain de à l'époque de l'hippodrome, là, où se déroulaient les matchs, le président, même au niveau du quartier, là, il disait très souvent... Les gars, faites de ce match-là la patrie ou la mort.
Exactement.
Voilà. Faites de ce match-là la patrie ou la mort. À analyser de près, ça veut dire que, on demande vraiment de s'engager pour le secteur, s'engager à fond jusqu'à en mourir s'il le faut. Hein.
Je vais donc parler au nom de tous les laissés pour compte, parce que je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Gloire éternelle au peuple qui lutte pour leur liberté. Gloire éternelle au peuple qui décide de s'assumer pour leur dignité. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.
Bakary Barrow, pour vous, les jeunes de la Révolution, dans les années 83-84, Sankara, qu'est-ce qu'il représentait pour vous?
À l'époque, pour nous, pour la jeunesse, Sankara réellement nous émerveillait. Il nous émerveillait à travers d'abord sa jeunesse, la jeunesse de son groupe. Il nous émerveillait également à travers son discours que nous avons senti très proche de nous. Et il nous émerveillait également à travers l'intégrité que nous, on voyait à travers cet homme-là. Voilà.
À votre avis, aujourd'hui, 30 ans après, dans la société burkinabé, qu'est-ce qu'il reste de positif de cette période de Sankara et qu'est-ce qui, à votre avis, reste de négatif? Votre vision?
C'est un avis vraiment personnel. Hein. J'ai vraiment l'impression que de nos jours, il ne reste plus grand-chose de cette époque. Tout a disparu, pratiquement. On ne s'identifie plus aux façons d'enfanie, consommant burkinabé, tout ça c'est fini. Donc moi je ne retiens plus grand chose de Thomas Sankara. Plus grand chose.
Je crois que la plus grande victoire, c'est la transformation des esprits. Le burkinabé a confiance en lui-même maintenant. Et il sent qu'il peut transformer sa réalité, son milieu. Bien sûr, ce n'est pas automatique, mais enfin, c'est cela qui me paraît être le plus important. Vous pouvez même oublier les écoles, les dispensaires, les barrages, les routes, les logements, tout ça vous pouvez l'oublier. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Burkinabés ont pris conscience maintenant, ils ont confiance en eux-mêmes. C'est la première et la plus importante des victoires.
Merci à Bakary Barrow et à Urbain Kam qui dirigent aujourd'hui le formidable musée de la musique de Bobo-Dioulasso Lasso au Burkina Faso. Ils étaient tous les deux ados dans les années 80 et ils ont donc vécu cette révolution menée par Thomas Sankara.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI.
Vous écoutez La Marche du Monde, une émission enregistrée avant la démission de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Nous sommes avec l'écrivain Saïd Bouamama et nous revenons bien sûr sur la révolution sankarienne il y a 30 ans au Burkina Faso. Sankara assassiné en 87, Sankara devenu icône justement dans le Burkina Faso de Blaise Compaoré, son ami qui a été au pouvoir jusqu'à sa toute récente démission, dans un Burkina où Sankara était réellement devenu une icône peut-être de la même façon que le Che Guevara était devenu une icône instrumentalisée par Fidel Castro.
Il y a toujours quelque chose de dramatique lorsque un leader reconnu par son peuple et ayant marqué une phase de l'émancipation devient l'icône de justification et de légitimation de ce qui vient après. En ce qui concerne Blaise Compaoré, on est au bord de la caricature puisque tous les choix qu'a fait Blaise Compaoré après, c'est des remises en cause des axes centraux des politiques de Sankara et pourtant, on le met en avant et on se présente comme l'héritier de Sankara. C'est très simple que de faire l'inverse d'une personne tout en s'en revendiquant. Et c'est quelque chose qui participe du brouillage des repères, qui participe d'un monde qui devient illisible lorsqu'effectivement on n'arrive plus à repérer ce qui oppose et ce qui réunit.
Que vous inspire ce reportage, Saïd Bouamama, vous qui vous interrogez sur les différents chemins empruntés par les figures de la révolution africaine ?
La première leçon pour moi, indépendamment des limites, des dérives qui a pu exister, puisqu'on sent quelques dérives, en particulier sur l'aspect mobilisation et parfois contrainte, etc. Mais par contre, la principale leçon, c'est la capacité à mettre en mouvement le Burkinabé moyen, la capacité à s'appuyer sur la jeunesse, toute chose qui manque aujourd'hui cruellement en Afrique. Et puis la dimension, et je pense que ça n'est pas que de la morale que de faire cela, mais de l'exemplarité des dirigeants et des responsables que Thomas Sankara a vraiment tenté de construire de manière cohérente, pas à pas. Lorsqu'il change les grandes voitures des ministères pour des petites voitures de bas de gamme, lorsqu'il interdit aux ministres d'aller dans les réunions internationales en classe affaires, lorsqu'il contraint d'aller dans des restaurants populaires, etc. Il s'agit bien d'un message vis-à-vis du peuple. Et puis surtout, la grande mesure qui montre bien, et c'est cette proximité-là que retient votre dernier intervenant, lorsqu'il décide, malgré le désaccord de l'Assemblée des ministres, que le Conseil des ministres, que l'équipe gouvernementale sera changée chaque année pour éviter justement bien les pratiques de vol, les pratiques de d'émergence d'une nouvelle classe sociale. Et c'est extrêmement populaire. Et quand on regarde aujourd'hui la distance entre gouvernants et gouvernés dans tous les pays d'Afrique, quand on regarde ce rapport à simplement la responsabilité, eh bien on s'aperçoit que là aussi, l'exemple de Sankara est une nécessité si demain on veut que des dynamiques se recréent.
Alors il y a une autre dimension qui était particulière et singulière de la révolution sankarienne, c'est son attention aux femmes, la façon dont il s'adresse aux femmes et la façon dont il donne une place aux femmes dans la révolution. Ça, c'était très novateur à l'époque aussi.
Absolument, c'est très novateur et ça fait partie des leçons qu'il tire, des limites de ses prédécesseurs. Il dit lui-même d'ailleurs qu'il ne peut faire cela que parce que d'autres ont expérimenté auparavant et il en tire des leçons.
Cette réflexion sur la domination de la femme par l'homme, parce qu'il y a bien sûr cette réflexion des colonisés, dominés par les colonisateurs, mais enfin c'est l'idée que au sein même de cette société de dominer, il y a finalement encore une autre domination qui est celle de l'Africain sur l'Africaine.
Il faut avoir en tête que avant Sankara, les différents grands penseurs que je cite dans le livre, pour une partie d'entre eux, importante, à certains moments de leur vie en tout cas, considéraient que l'avenir de l'Afrique c'était le retour au passé.
Alors des noms.
Quelqu'un comme Nkrumah considère que, malgré tous ses aspects positifs, considère que l'avenir de l'Afrique c'est le retour à la forme de société antérieure, comme si cette forme de société éliminait toute inégalité et tout ce que dit Sankara, c'est justement attention, l'opposition aux colonisateurs ne doit pas nous amener à oublier aussi que nous avons à lutter par rapport à nos propres contradictions internes et les propres inégalités qui peuvent parcourir y compris les cultures précoloniales.
Saïd Bouamama, à l'heure où certains pays africains comme l'Éthiopie ou encore le Nigeria affichent des taux de croissance à faire pâlir la vieille Europe, vous écrivez dans votre introduction « Attention à la fable heureuse de la mondialisation ». Que voulez-vous dire ?
On a tout un discours aujourd'hui qui se développe de plus en plus sur la mondialisation et l'avenir de l'Afrique. Alors bien entendu, on ne peut que se réjouir quand les peuples ont des contacts plus étroits, sauf qu'il faut quand même bien constater que, en réalité, même dans les pays où les taux de croissance sont élevés, c'est au prix d'écarts sociaux extrêmement importants avec des pauvretés qui se maintiennent. On ne peut pas occulter que cette mondialisation s'accompagne aussi de guerres, de retours de divisions ethniques, de retours de partage, comme le Soudan, de territoire, etc. C'est-à-dire que, en réalité, le point le plus marquant de devenir de l'Afrique aujourd'hui, c'est une paupérisation. C'est-à-dire que la phase de progrès social des années 60, et qui était liée à tous ces combattants, à tous ces penseurs, etc., est aujourd'hui une phase dans laquelle on a, au niveau économique, au niveau des conditions de vie toutes simples, du peuple tout simplement, on a un recul.
Merci Saïd Bouamama. Je rappelle que votre livre Figure de la Révolution africaine est aux éditions La Découverte dans la collection Zone. De Kenyatta à Sankara, c'est une édition de La Marche du Monde réalisée par Sophie Janin avec les archives de l'INA et de RFI, ainsi que de nombreux extraits du film de Christophe Cupelin, Capitaine Thomas Sankara. Merci aussi à notre stagiaire Philippine Veil. N'oubliez pas de vous exprimer sur Facebook. Écrivez-nous marche.monde@rfi.fr. Podcast. Cette émission, c'est la vôtre.